I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors là les amis, c'est Capture Mag Hebdo et c'est le 7 juillet. Et alors là je pars en vacances là. Là je pars me mettre les doigts de pied en éventail.
T'es déjà parti.
Je suis déjà en Vendée. Si vous voulez me retrouver, vous allez au Sable d'Olonne, vous cherchez David Ogja et il prend le soleil.
Il a officiellement changé de nom.
Ah bah oui, maintenant je m'appelle Ogja. J'espère que le mois de juillet va être bon parce que j'ai vraiment vraiment envie de profiter de la plage et de la mer. Mais en attendant, j'ai besoin de vos conseils, j'ai besoin de vos recommandations cinéphiliques.
On va t'en donner des conseils.
Et c'est pour ça que je suis entouré de Rafik.
On va avoir du conseil.
Hein, le Rafik, il est là, le Rafik.
Il est là, ouais, non mais tu vas voir,
ça va péter du conseil.
On s'est sorti les doigts du ce que tu penses.
Il y a le Stéphane qui est là aussi.
Mais on va te soigner, David,
Ça va, j'attends que ça. Et puis il y a Arnaud, il a repris son avion, il est revenu de Nice.
Et voilà.
Et il est avec nous. Et on a quand même une petite pensée pour Julien, quand même, qui est pas là, mais on espère le retrouver très très vite.
Julien, on t'embrasse partout.
Voilà, exactement. Bon, bah alors on va parler ce soir, on va parler.
Il y a eu un blanc là, quelqu'un voulait dire, j'ai senti que quelqu'un voulait dire on t'embrasse partout, même sur tes petites fesses blanches, Julien. Mais finalement personne ne l'a dit.
De rousseur.
Mais sûrement.
Délicieuse.
Bon, alors.
Finalement personne n'a dit, il y a eu un blanc.
Écoutez, là, moi ça me dépasse, ça devient
la
trop chaud pour moi.
Il y a une semaine on parlait de Okja, donc de Bong Joon-ho, et bah cette semaine on parle de Memories of Murder, du même Bong Joon-ho, version restaurée en 4K. On va aussi parler de Tuer Charlie Warrick de Dong Siegel.
Warrick.
Et du Gang Anderson de Sidney Lumet. Et tout ça sort
en
Blu-ray.
Qui sont déjà ressortis tout récemment, fin juin, en Blu-ray.
Voilà.
Voilà.
C'est bien.
Trois réalisateurs qui devraient apprendre leur métier. Oui.
C'est que trois branleurs. Là.
Oh, soyez pas désagréables. C'est quand même l'été. Il faut être gentil, il faut être heureux, il faut être bienveillant. Bon, commençons par le plus asiatique de ces trois réalisateurs.
Du moins, le plus récent.
Don Siegel, donc.
Et le plus récent. C'est Bong Joon-ho qui avait fait, en 2003, si je me souviens bien, ou début des années 2000.
2003.
Memories of Murder, qui était son premier film, très remarqué.
Non, deuxième.
Deuxième film, pardon. Deuxième. En tout cas, très remarqué.
Ouais, ah oui, ça c'est.
C'est ce qu'il a mis sur la map.
Sur les rails.
Mondial, hein.
Sur les rails du transpersonnage.
Et un deuxième film dont on n'aurait pas pu prévoir l'impact, parce que son premier film que moi j'aime bien, mais que Bong Joon-ho a totalement renié, il ne veut plus même plus en parler.
Ah ouais?
Ouais. C'était un film qui se passait dans un immeuble, c'est une chronique sur des gens dans un immeuble. Et, mais pour autant, ça ne s'est pas présagé d'un film aussi ambitieux que Memories of Murder.
C'est clair.
Donc, pour ceux qui connaissent pas, on va pitcher vite fait.
Pitch.
Tout en précisant à l'entrée du pitch, et c'est important dans le film, et c'est même très important, c'est une histoire vraie. C'est un fait divers qui a ensanglanté la province coréenne. Je ne sais pas exactement quel coin, hein. David, peut-être tu dois le savoir.
Non, je sais pas non plus.
Qui a ensanglanté donc la province coréenne.
C'est en dehors de Séoul, tout est de la province en Corée.
Ouais, ça se passe à la campagne, à un village, quoi, une petite ville en tout cas. Donc, qui a ensanglanté.
C'est con ce que je dis d'ailleurs.
Qui a ensanglanté
le pitcher.
Oui.
Qui a ensanglanté ce village au milieu des années 80 sur un tueur en série. C'est assez rare, hein, là-bas, des tueurs en série, surtout à cette époque en plus, qui tuait des femmes.
De dictature.
voilà, qui tuaient des femmes toujours sous le même modus operandi. On les retrouvait toujours pareil, à attacher les mains dans le dos, avec leurs culottes sur la tête, dans la bouche, tout ça. Bon, voilà. Et alors, en fait, le film part de ce fait divers qui est très très connu en Corée du Sud. Hein. C'est à peu près l'équivalent de l'affaire Grégory pour nous. Quoi. C'est quelque chose que tout le pays connaît apparemment.
Il avait sa culotte sur la tête, petit Grégory.
Bon, c'est tombé à point. Merci Rafik.
Too early.
Trop tôt.
C'est dommage qu'on ait pas eu Benoît Pelvord comme invité là, mais bon. Bref, donc oui, alors ce fait divers, voilà, que je vous ai raconté. Et donc on va le suivre, ce fait divers, en fait, à travers deux personnages essentiellement. Il y a plein d'autres personnages autour d'eux, mais deux personnages de flics. Un venu de la ville, venu de Séoul, qui est un flic aguerri, professionnel, et qui vient là justement parce que ces meurtres la renommée de ces meurtres sont remontées jusqu'à la capitale. Oui, David.
C'est Song Kang-ho qui joue ce rôle.
Non, c'est l'autre. C'est pas Song Kang-ho. Et donc Song Kang-ho, qui d'où l'acteur fétiche de Bong Joon-ho, qui a joué dans The Host et Transpersonnage aussi, et qui lui joue le flic local, qui est une sorte de personnage assez frustre, un peu bof sur les, enfin un peu beaucoup
Oui.
Mais dont, enfin comme toujours avec Bong Joon-ho, il l'observe, il ne lui dénie pas non plus certaines intuitions, tout ça. Donc voilà, mais en gros c'est le flic bof et enfin le flic des champs et le flic de la ville. Voilà, et tous les deux donc vont enquêter pour essayer de trouver ce tueur en série. Et il faut savoir aussi, pour terminer là-dessus, par rapport au fait divers, que si ce fait divers a énormément fait parler de lui en Corée, c'est que c'est un peu comme le Zodiac de San Francisco, c'est qu'on n'a jamais attrapé le tueur en série.
Ah, et c'est dingue.
Il n'a jamais été attrapé.
Et en plus, c'était dans un rayon très, très, très fermé, c'est juste 2-3 kilomètres.
Oui, oui.
Et il a tué des petites jeunes, comme il a tué, je crois que sa plus vieille victime avait plus de 70 ans, quoi. C'est incroyable. Voilà, c'est étonnant.
Et donc Bong Joon-ho s'est intéressé à cette histoire et il a intégré au sein même de son projet la véracité des faits et à un point où même il y a une sorte de le film a une manière de prendre en compte le on va dire le hors champ du réel, quoi. C'est-à-dire ce qui s'est vraiment passé dans la réalité, et on va pas spoiler, je vais pas dire ce qui se passe dans ce plan final, mais notamment je ne dis pas ce qui se passe dans
on
ce
peut.
Plan final. Bah non, pas forcément.
Non,
mais c'est super intéressant, c'est un des meilleurs trucs du film.
Ouais, mais bon.
Bon, le film, il a.
C'est pour ceux qui l'ont pas vu qui vont pouvoir le découvrir en salle.
Non.
Mais bon, c'est pas grave, il y a un moyen d'en parler quand même. Donc, notamment à travers ce plan final, où il prend en compte justement le réel, et du coup, il s'adresse au spectateur qui est assis dans la salle. Et enfin, ouais, voilà, c'est vrai que c'est effectivement une des meilleures idées du film, c'est un des plans finaux, les plus tétanisants qu'on ait pu voir.
C'est peut-être aussi parce qu'il faut préciser que Memories of Murder, c'est un polar, certes, dans l'absolu.
Polar parce rural. Que,
voilà, par certaines. Voilà, mais c'est aussi une analyse de la société coréenne, en fait. Et du coup, en fait, comme c'est un film qui traite clairement de ça, c'est pour ça qu'il puisse se le permettre, en fait. On n'est pas dans une espèce d'enquête. C'est-à-dire, c'est une manière de. Enfin, quand on dit, en gros, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas le film, qui ne connaîtrait pas cette histoire, évidemment, comme nous autres occidentaux, quoi, il faut préciser que l'intérêt du film n'est pas dans l'enquête policière
à
proprement. Voilà, c'est pas dans l'enquête policière à proprement parler. C'est vraiment dans la description des personnages, dans la description des méthodes éventuellement policières, ce genre de choses. Et ce que ça en dit sur les gens et sur toutes ces scènes de carreau. Okay, qu'ils ont des trucs comme ça, etc. ce qu'ils vont faire en dehors de tout ça, quoi.
C'est vrai ce que tu dis, c'est tout à fait vrai, hein. Mais il y a quand même aussi, le film est assez long, hein, d'ailleurs, ça dure 2h20, je crois. Il y a quand même, il s'autorise quand même des plages de pur genre, de pur polar et d'enquête.
Enfin, c'est mon boulot, évidemment.
Il y a une scène de course-poursuite, notamment,
sûr,
à un moment qui est étonnante.
Bien sûr, mais ce que je veux dire, en fait, c'est que c'est pas le polar ordinaire, en fait, c'est-à-dire que c'est pas le polar ordinaire qui serait sous influence américaine, comme tu peux en avoir en France. Comme tu peux en avoir partout dans le monde, en fait, en gros, parce que c'est un peu le pays qui a donné le là, en fait, pour ce genre-là, quoi. Donc du coup, en fait, c'est ça qui le rend, moi, je pense, fascinant, et c'est ce qui, à mon avis, l'a fait exploser sur le devant de la scène, c'est-à-dire que ça soit un film si typiquement coréen, au milieu, c'est vrai que le cinéma coréen, au début des années 2000, a vraiment explosé sur le marché international, etc. Mais moi, je trouve personnellement qu'à cette époque-là, il y avait très très peu de grands films de qualité, hein. Je veux dire, même comment il s'appelait ce film qui est un énorme carton là, le de Park Chan-wook,
Sympathique.
Non, avant ça justement. Le truc qui se passait entre la frontière coréenne.
Oui, c'est JSA, ouais.
C'est JSA,
JSA,
ouais.
C'est extraordinaire.
Eh ben moi. Tu vois, enfin, je trouve ça tout bidon. Et le truc, c'est que, enfin, j'avais du mal à vraiment calculer le cinéma coréen. Et j'ai commencé vraiment avec. Alors, j'aime beaucoup Old Boy de Park Chan-wook, en l'occurrence.
C'est les deux films, hein. C'est les deux films de l'époque qui ont lancé la vague, quoi.
Non, la vague, elle a été lancée avant, Arnaud. Justement, c'est ce que je dis. En fait, le truc, c'est que moi, je te parle de mon expérience personnelle. C'est ces deux films-là où j'ai commencé à me dire.
Steph John Security.
Après, Sympathy for Mr. Vengeance, c'était déjà vachement bien.
John Security Area, ça n'a pas eu le retentissement. Memories of Murder et Old Boy. Et là, on parle d'un point de vue international.
Ça n'a pas eu le retentissement en France, parce que c'est sorti en vidéo, mais ça a eu un retentissement assez énorme, Arnaud. En Corée, on n'en parle même pas, ça a été un carton.
Mais moi, je pense au niveau international, c'est vraiment Old Boy et Memories of Murder qui ont le point.
Et comment il s'appelait ce film ? Chiri, c'est ça ?
Oui.
Chiri, c'est pareil, tu vois, c'était des trucs que je regardais ça, je me disais, ok.
C'est vrai que.
C'est pas des films.
C'est vrai que JSA, il faut connaître quand même la situation nord-coréenne. Pour vraiment apprécier tous les détails du film qui sont extrêmement intéressants, belle mise en scène, belle réalisation, mais le film est assez lent.
Écoute,
tu vois.
Pour moi qui ne connais pas du tout la Corée, j'y suis jamais allé, je connais pas la société coréenne, Coréenne du Sud. Quand je regarde un film comme Memories of Murder, tout est là, j'ai l'impression d'y être. En fait, j'ai l'impression d'être vraiment dans un espèce de truc de, c'est-à-dire que c'est à la fois un polar, et c'est à la fois un aspect chronique en fait qui est assez prononcé, moi je trouve dans Memories of Murder. Et qui, moi, me rend justement le truc. Enfin, je me rappelle, je m'étais dit, c'est ça qui m'intéresse là-dedans. C'est ce que le mec donne, en fait, là-dedans.
C'est que le film se passe en province. Ça, c'est très important parce que justement, le point de vue décalé hors Séoul est vachement bien dans ce film.
L'intérêt aussi, justement, je parlais pendant le pitch des deux personnages principaux, mais c'est vrai que le film déploie toute une galerie de personnages au second plan, notamment dans les différents suspects successifs de l'affaire, les témoins, tout ça. Par exemple, le parcours de ce petit personnage d'handicapé mental, c'est formidable, quoi. C'est un personnage, alors d'ailleurs...
Qu'on accuse du meurtre, quand même, en fait.
Et c'est un personnage de petit handicapé mental et qui est en plus défiguré à moitié, quoi, qui a été brûlé. Et tout le traitement de l'arc autour de ce personnage, notamment le fait qu'il a été brûlé avant, tout ça, jusqu'à la fin de son arc, je pas raconter, mais c'est formidable parce que c'est un personnage avec lequel encore on trouve la marque de Bong Joon-ho, mais avec lequel il arrive à travers tout le film à nous faire rire, à nous faire pleurer, parce qu'il y a des moments pathétiques, quoi, vraiment, quand les flics s'acharnent sur lui, à nous faire peur à certains moments. Enfin, voilà, c'est un film où il y a énormément à manger, quoi.
C'est vrai qu'en tout cas, voilà, c'est pour ça que je rebondissais sur l'approche générale du projet, c'est-à-dire qu'en gros, c'est parce qu'il parle de la société coréenne du Sud qui peut s'adresser à la fin dans le plan final à toute la société coréenne et leur poser en fait une question par le regard. En fait, c'est une vraie question qui est posée et qui est liée. Et je pense en fait que le c'est déjà très fort quand t'es un spectateur et que t'as compris tout l'angle du film. Mais je pense que pour un Coréen, c'est encore plus fort quand tu vois ça, du coup, parce que il y a presque une logique de culpabilité qui pèse sur cette
logique.
C'est
terrible, parce que moi je m'imagine en tant que spectateur coréen, on va essayer de pas dévoiler encore le truc.
Non.
Mais on tourne autour, là, mais moi je m'imagine en tant que spectateur coréen découvrir le truc en 2003. C'est vrai que ça doit faire bizarre, et puis tu dois te retourner, regarder les gens dans la salle, tu vois, quoi, et tout, quoi. C'est un très très bel exemple de création comme ça, d'une sorte d'interactivité entre le public qui regarde l'écran et ce qui se passe sur l'écran, quoi.
On va pas survendre le truc, mais c'est une idée toute conne, quand tu regardes le film à la fin.
C'est une idée toute conne, mais qui te laisse tout con.
Voilà.
C'est-à-dire,
voilà,
quand tu vois le truc, tu fais waouh, tu fais la même gueule, quoi.
Ouais.
Bon, c'est sorti au cinéma. C'est sorti au cinéma depuis deux jours en version restaurée. Il y aura sûrement un Blu-ray 4K probablement.
D'ailleurs, rien que le fait qu'il.
En France, je sais pas, mais en tout cas, t'as la remasterisation. T'auras au moins un Blu-ray normal.
Ça, c'est sûr.
Juste une petite note, si vous parlez l'anglais, enfin si vous comprenez l'anglais, il y a une vidéo de Tony Zhu qui est consacrée à Memories of Murder, qui est très 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 intéressante sur le ensemble staging, ou l'art de ne pas cutter et de de fabriquer une séquence, un plan séquence avec plusieurs personnages dans le même plan. Et ça, voilà. Donc bon, je vous conseille cette vidéo à voir. Elle est vraiment très très bien faite. Ouais.
Super. Bon bah très bien. Bah passons alors à la suite. Et la suite fait écho à ce que nous disions il y a 15 jours à propos de l'Empereur du Nord de Robert Aldrich, c'est que dans la même collection, j'ai l'impression que c'est la même, hein, je ne me trompe pas les amis,
oui, tout à fait.
Il y a Tuer Charley Varick.
Alors, pardon, même excusez-moi, année, mais je ne crois pas tout à fait justement, parce que je crois que Charley Varick fait partie des classiques, là, c'est vrai, avec le gros livret qui est plus gros que celui de l'Empereur du Nord, et qui sont emboîtés dans un carton assez épais, comme un livre, quoi, ça fait.
L'Empereur
du Nord est beaucoup plus mince, c'est pas la même collection.
Ah, d'accord.
J'essaie de me souvenir là.
En tout cas, c'est aussi chez Wildside.
La collection de Wildside dans laquelle paraît Charley Varick a un titre, cette collection. Je m'en souviens plus là, mais.
En tout cas, il s'agit bien d'un plus que d'un livret, c'est quasiment un petit bouquin écrit aussi par Doug Headline, tout comme pour l'Empereur du Nord.
Et donc c'est un film
de Don Siegel. Et le livre de Doug Headline s'appelle Le Premier des Indépendants, qui aurait dû être le titre de Charley Varick.
C'est un clin d'œil au premier titre parce que c'est le premier titre, c'était The Last, of the Independents, en fait. Le dernier des Indépendants.
Qui est la façon avec laquelle Varick se présente commercialement.
C'est son slogan, son nom.
Alors le Blu-ray est sorti depuis quelques jours, un peu plus de 10 jours, un peu moins. Bref,
excuse-moi David, et c'est un titre auquel Don Siegel a dû renoncer, La mort dans l'âme, parce qu'il y tenait énormément, quoi, le dernier des indépendants.
Et mais il l'aura pas. Hein.
Il aura eu le dernier des géants, mais pas le dernier des indépendants.
Et c'est déjà ça. Bon, alors c'est un film de 73, on est encore dans les années 70.
Ah bah là, on est plus que dans les années 70, là, on est dans les 70s porn, hein, je pense.
Ah ouais, c'est bah de toute façon, bon, déjà Don Siegel, il a pas mal défini je pense cette époque-là pour beaucoup de cinéphiles actuels, hein. Puis il faut quand même préciser un truc, alors c'est un excellent film de Don Siegel qui arrive après deux putains de grands films de Don Siegel, hein, qui sont Les Proies, donc bientôt remaké par notre ami Sofia Coppola, voilà. Non mais bientôt en salle. Apparemment Arnaud a beaucoup aimé.
Ah j'ai adoré. On arrête de parler de Charley Varick. On peut parler de Sofia Coppola, s'il vous plaît.
Ça a l'air ironique ce que tu dis, Arnaud. Bon allez, vas-y, continue.
Évidemment, l'inspecteur Harry, qui est l'autre film de 71.
Ça me dit quelque chose. C'est avec un acteur moumouté, non? Un type un peu.
Un mec a des jolis yeux, je sais plus.
Bon,
Paul Newman. Donc en fait, on pourrait, pour ceux qui s'attendent en fait à, on va dire entre guillemets, un cross de ces deux films, en fait peuvent déjà oublier ça. C'est un film qui est un peu oublié, je pense, hein, Charley Varick. C'est un film, bon, déjà il a un titre un peu particulier quand même, c'est le nom du personnage principal. Moi j'aime bien le titre français parce que c'est un peu plus badass, quoi.
Mais c'est en France peut-être, mais pas aux États-Unis.
C'est un film de studio Universal. Par réalisateur de l'inspecteur Harry. Universal, le DVD qu'ils ont sorti il y a 15 ans, c'était un DVD budget tout pourri. Bon là, en le blanc, on n'en parle même pas. Il sort ici, il sort pas là-bas. Donc le truc, c'est que non, c'est un film oublié, Charley Varick.
Parce que
ça a été un bide, parce que tu n'as pas une star qui a traversé les époques. Comme Clint Eastwood, t'as vraiment, enfin, je veux dire, Les Proies, c'est un film qui a été un bide, mais ça continue à ressortir aujourd'hui parce que t'as Clint Eastwood dedans. C'est leur fond de catalogue. Voilà. Là, t'as Walter Matthau qui est formidable dans le film. Voilà, qui, moi, je trouve un excellent acteur et qui a été une star en son temps aussi, hein, et clairement, quoi. Mais qui n'est pas
une star de la comédie. Oui.
Voilà, et qui donc joue le rôle de Charley Varick, qui est alors, c'est quoi déjà dans le film son métier officiel?
Il sème des il jette des engrais sur les cultures.
Alors je vous mets un peu du score de l'Allo Chiffrine de l'époque pour vous replacer dans l'ambiance des années 70, et on y est à fond, quoi.
Formidable score.
Bah oui.
Formidable score, et qui préfigure d'ailleurs celui de Magnum Force.
De Magnum Force, à la même époque.
Et en gros, derrière cette couverture, en fait, bah, c'est un braqueur de banque, en fait, Charley Varick. Et le film ouvre d'ailleurs sur un braquage de banque, en fait, où il s'attaque à une toute petite ville perdue de la Californie, en fait. Commettent leur braquage, ça tourne un peu au vinaigre, en fait, et quelques personnes restent sur le carreau. D'ailleurs, moi, je trouve qu'il y a une... une très belle scène très touchante en fait avec celle qui est sa femme en fait dans le film au début hein, quand il
Sybille
voilà qui reste et en fait dont il lui prend l'alliance ouais. C'est une très belle scène je trouve qui pose le personnage d'une certaine manière.
C'est une scène qui va se servir pour la scène finale
bien sûr et du coup mais qu'on ne spoilera pas pour le coup et le truc en fait c'est que ce qui se passe c'est que bah ça devait être une petite banque, ça devait être un petit coup. Ils y perdent beaucoup de leurs hommes là-bas. Et surtout, en fait, ils se retrouvent avec beaucoup plus d'argent que prévu, quoi. Et là, ils se disent,
il y a
un gros problème.
Il y a un souci.
Voilà. Et pourtant, dans les médias disent, il y a $2,000, $3,000 qui ont été volés. Et là, les mecs, ils se retrouvent avec $500,000. Donc ils comprennent tout de suite que c'est l'argent de la mafia.
750.
Voilà, ils comprennent tout de suite que c'est l'argent de la mafia. Ils comprennent tout de suite que c'était de l'argent blanchi. Et du coup, ils se disent comment on va faire, quoi. Voilà.
Comment on va s'en sortir.
Et c'est là, en fait, où toute l'intrigue, en fait, du film se déploie et devient un peu plus grande que ce petit braquage à la base de...
Enfin, c'est Charlie Varry qui se demande comment on va faire parce que son compagnon, le seul survivant du braquage, en fait, il y a eu deux morts dans le braquage, dont sa nana, mais il est accompagné par Arman Sullivan qui est joué par Andrew Robinson. Oui, c'est ça.
Ouais. Le petit jeune, c'est Andrew Robinson.
Le scorpion de l'inspecteur Harry, voilà, et qui a un gros problème d'alcoolisme et qui est pas quelqu'un de tréfuté non plus et qui risque
de toute façon à la base considère que de toute façon l'argent lui appartient désormais et qu'il a aucune raison qu'on lui court derrière.
Donc Charlie Varick doit quand même s'assurer de tenir un peu ce mec en garde quoi et va planquer l'argent dans un lieu sûr.
Et c'est ça qui est super avec le film, c'est-à-dire qu'il y a souvent des réalisateurs comme Don Siegel par exemple. Don Siegel, j'ai parlé des proies, j'ai parlé de l'inspecteur Harry, mais c'est évidemment aussi le réalisateur du Body Snatchers original et
oui.
Qui est un film dont on prétend en fait qui a beaucoup de comment dire, enfin qui était un film par exemple sur le communisme etc. Don Siegel en fait sa réponse, et ce qui est d'ailleurs généralement la réponse de Clint Eastwood aussi quand on lui parle de certains films, c'est pour moi c'était une bonne histoire. C'est tout. Et je trouve que Charlie Varick, c'est pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui définit clairement ça. C'est-à-dire que c'est un type. Ça pourrait être un polar de base, en fait, un film comme Charlie Varick. Mais un réalisateur comme Don Siegel, qui apprécie justement la narration de ce genre de film, en fait, fait ressortir tous les éléments de avec une finesse de fonctionnement qui est, voilà. Hyper travaillé
et surtout
et un métier incroyable quoi, donc
tout à fait, mais storyteller qui bossait de très près avec ses scénaristes et il a eu une relation pas conflictuelle mais une relation très très fusionnelle on va dire avec Howard Rodman le scénariste de Charlie Varick, qui en fait était un type qui s'était surtout fait connaître aux États-Unis avec des séries télé très ancrées dans la réalité justement, qui étaient Route 66 et surtout Naked City, qui étaient des séries policières à gros succès et qu'on pavait la voie à tous ces polars de la fin des années 60 qui mettaient un pied dans la réalité. De ce que j'ai compris, le script d'origine était plus dur que le film qu'on a, puisque à l'origine le personnage de Charlie Varick devait être interprété par Donald Sutherland. Donc on va dire entre guillemets plus 70s par exemple il y avait des scènes où on comprenait que c'était lui qui fournissait sa nana en héroïne, tu vois, que c'était une accro, ce genre de truc là, donc c'était quand même un peu plus hardcore. Mais toute la documentation on va dire sur le pays, sur les petites gens, sur la façon avec laquelle la mafia fonctionne, voilà, tout ça c'est des trucs que Rodman lui a ramené quoi, c'est un peu le surécoute comment dire de l'époque quoi, voilà. Et ça permet aussi au film de fonctionner, il y a cette espèce de crédibilité de l'univers,
ouais, de te faire ressortir tous les aspects en fait secondaires à l'intrigue mais qui la renforcent, voilà. Et qui l'enrichissent vraiment en fait d'un aspect d'une véracité en fait,
ça, simple fait d'aller se faire de faux papiers te fait découvrir tout un petit monde voilà,
quoi. Avec la scène avec Sherry North là, elle est magnifique cette actrice, moi j'aime beaucoup, elle a terminé un peu sa carrière notamment avec Maniac Cop, là, elle jouait la fiancée du Maniac Cop. Mais elle a une scène géniale avec Walter Matthau là où elle lui demande $500 pour le moindre truc. Et à la fin, il va se casser. Là, c'est typique de Walter Matthau, ça aussi. Il voit un boc à sucette et puis il dit je peux en prendre une. Et elle lui fait ses $500. Alors il la prend, il la rejette et puis il se casse avec sa moule.
Quand le rôle est arrivé à Walter Matthau, qui apparemment a perdu à Paris avec avec Don Siegel. Ils avaient joué au ping, ils jouaient au ping pong et en gros il était convaincu de le battre. Et
bah oui, parce que Don Siegel était un tueur
et en fait c'était un champion.
Et
un champion
et il joue d'ailleurs dans le film un petit rôle où il joue au ping pong chez des mafieux chinois. Ouais. Là, et,
tout à fait. Et donc ça a été sensiblement réécrit aussi parce que pour le public américain, qui, voilà, Matto il sortait de ses comédies avec Jack Lemmon, ça allait être un choc certain que de le voir jouer un personnage trop hardcore. Donc il y avait quand même le côté sympathique de Matto qui a été réinjecté. Dans...
Ça reste quand même un personnage vachement badass, moi je trouve.
Non, bien sûr.
Mais il y a un côté quand même entre guillemets sympa et truculent. Quoi.
Le truc aussi, c'est que Siegel il capitalisait aussi parce que c'était en 73, hein, je crois, le film. Ouais. C'était quand même relativement récent. Le passé assez chargé, certes, en comédie, tu vois, les films de Billy Wilder, tout ça, de Walter Matthau, mais c'est quand même quelqu'un qui a avant Billy Wilder, qui a fait quand même beaucoup de rôles de méchants dans des polars, des trucs comme ça. Donc il revenait un peu à ça, et je pense que Walter Matthau, ça l'a aidé, ça, ce passé-là, même si apparemment il était dans un doute horrible par rapport justement à l'image qu'il avait auprès du public. Et il y a un excellent documentaire sur le Blu-ray d'ailleurs qui revient sur toute la conviction du film avec beaucoup d'intervenants, dont Howard Rodman, non, le fils de Howard Rodman, qui est une véritable mine d'informations sur la carrière de son père. Hein. Il y a Andrew Robinson qui a l'air génial comme mec, d'une gentillesse et puis d'une acuité sur le travail de tous ses collègues. Enfin, voyez-le, le documentaire, ça vaut vraiment le coup. Et donc, qu'est-ce que je disais qu'il y avait dans ce documentaire? Je parlais de quoi là-bas?
Ah ben, je sais plus.
De Walter Matthau, on était sur...
Oui, voilà, Walter Matthau. Et donc, c'est Andrew Robinson qui raconte que Walter Matthau était en proie à un doute pas possible sur son rôle. Et il lui disait régulièrement, qu'est-ce que je fous dans ce film, quoi. Et Robinson disait, mais non, t'inquiète pas, t'es génial et tout. Et effectivement, il est très, très bon. En fait. Et t'as employé le terme badass. Moi, je trouve ce qui est pas forcément évident, en tout cas pour Walter Matthau de cette époque-là. Dans les années 40-50, il avait un visage un peu plus viril. Mais là, à cette époque-là, ça commençait à être un peu le gros nounours, le chamallow.
Ouais, puis ils en jouent carrément avec la scène d'ouverture. Parce qu'il le maquille en fait en petit vieux.
En petit vieux.
Et ils accentuent vachement les joues en fait, du coup.
Mais alors, moi, ce que je trouve génial justement dans le film, c'est cette scène d'ouverture qui, mine de rien, et quand on a dans le souvenir du film, c'est peut-être pas aussi évident, mais quand on le revoit, c'est bien une demi-heure la scène d'ouverture. Quoi.
Une demi-heure jusqu'à ce qu'ils arrivent, jusqu'à ce qu'ils sortent. Bah, c'est pas le braquage qui fait une demi-heure, hein, c'est toute la scène.
C'est-à-dire que t'as toute la mise en place qui est très longue avec les flics qui viennent, qui interrogent Walter Matthau, sa femme, après, pendant que lui va dans la banque, après le carnage, après la poursuite, tu vois. Tout ça, c'est quand même.
C'est une demi-heure jusqu'au moment où ils arrivent chez lui.
Et en fait, toute cette. Ce premier tiers du film, ce premier acte, hein, en gros, qui est le vol de la banque, va énerver tout le reste du film, quoi. Et ce qui est formidable aussi, c'est que Charlie Varick, le personnage de Charlie Varick, et la manière aussi dont le joue Walter Matthau, c'est un personnage très intelligent qui fait plein de trucs pendant tout le film, dont on ne saisit pas forcément la finalité. Et qui découlent justement de toute la scène d'ouverture et qui vont conduire à la scène finale. Et alors là, je parle de la scène finale, c'est vraiment la dernière minute du film, quoi. Quand il y a la révélation, tout ça.
Hop.
Non, je n'en parle pas.
Bah.
Mais donc, on reconnaît vraiment le style de Don Siegel, justement, qui est d'une efficacité mais imparable, quoi. Je veux dire, le film quand il se clôture, c'est bouclé, ouais. C'est.
Et c'était aussi donc à l'époque une révélation à travers le personnage de Jordan Baker qui joue Molly. Alors je sais pas, ça a un nom, mais c'est un contracteur de la mafia. Enfin, en gros, un type qui est
le mec qu'on appelle pour
régler un problème et qui va remonter la piste jusqu'à ces intrigants professionnels qui ont braqué cette banque. Et il a une espèce de tenue de d'homme d'affaires texan avec son chapeau et ses bottes. Il est terrifiant, toujours le sourire aux lèvres, toujours prêt à en découdre. Il y a des scènes vraiment, on y revient, on en parlait dans un autre épisode aussi de l'importance de la crédibilité de l'environnement, mais voilà, il va dans un bordel qui s'appelle, le Texas Ranch, je crois, ou un truc comme ça. Où les putes,
la mère Macrae, voilà, c'est le casino,
tout ça, et jusqu'au bout, tu t'imagines qu'il va prendre la pute qu'on lui propose sous le bras, et quand il balance d'un d'une fermeté sans nom qui baisse pas les putes, quoi. Et alors que plus tard on le verra.
En tout cas, pas en étant conscient.
C'est ça, pas tout ouais. à fait pas en étant conscient. En plus, juste pour le plaisir, le vrai propriétaire du ranch, qui est un mafieux total, Joe Comforte joue son propre rôle et on le voit avec les filles dans le truc. Enfin, il y a tout un aspect pas documentaire, on est très très, très loin du documentaire, mais un aspect vraiment réaliste et crédible à cet univers. Et quand je parlais de 70s porn, c'est vrai que bon, pour les gens qui connaissent peu ou pas le cinéma du début des années 70, ils vont voir, c'est le genre de film qui a fait éjaculer pendant des nuits et des nuits Quentin Tarantino quand il était ado et jeune adulte, quoi. Enfin, c'est des,
je vois pas de quoi tu veux parler.
C'est formateur. Les plans sur ces gars, sur ces types survirils arrivant dans leur bagnole des 70s, se garant auprès des bordels sur la musique de Lalo Schifrin. Enfin, il y a un fétichisme qui n'était peut-être pas d'époque, en fait. Je pense pas qu'à l'époque le film apparaissait comme ça, mais avec tout ce qu'on a pu faire autour de l'héritage des 70s, ça devient un film fétichiste par essence.
Ce que tu veux dire, c'est que c'est un film de son époque.
Oui, bien sûr.
Clairement, c'est ça.
Bien
c'est
sûr, vrai, mais un film de son époque, bien foutu, bien cadré.
Ah, ouais,
bien,
et puis
habité.
Merde.
Et puis habité.
Comment?
Don Siegel,
voilà, justement.
Habité par son réal, parce que ce personnage de type décalé, un petit peu de dinosaure aussi, hein, mais qui fait tout ça sans la ramener, avec une certaine nonchalance, c'est typique. Effectivement, on a parlé du précédent titre, enfin, du titre que voulait imposer Don Siegel, The Last of the Independence. Je pense que s'il y tenait autant, Don Siegel, c'est parce que ça lui parlait clairement, quoi.
Oui, bien sûr.
Ce qu'il avait voulu faire dans le cinéma, quoi.
Qu'il a toujours recherché son indépendance. Et en plus, juste voilà, pour conclure, aussi, c'est aussi un film qui a amené, a priori, l'idée de la toute dernière frontière de l'Amérique, en fait, qui est celle du Sud, en fait, qui est celle de la proximité avec le Mexique, et qui va courir sur tout le polar américain jusqu'à Breaking Bad ces derniers temps. Mais que voilà, Charlie Varick a initié cette idée. C'est intéressant parce que dans les mêmes années, justement, il fait Le Dernier des Gens avec John Wayne, quoi. Il donne au western son, entre guillemets, classique, son dernier film, et en même temps il amène le polar sur des rives westerniennes en montrant que la dernière frontière elle se passe dans cette antichambre de l'enfer qu'est la frontière.
Et je serai très court, mais tout en rendant hommage aussi à Hitchcock, parce que j'en ai pris conscience que récemment, qu'en fait, que la scène finale de confrontation entre John Vernon et Walter Matthau était une inversion de la scène de l'avion, puisque c'est le mafieux qui vient attendre le héros, et d'autant plus qu'elle est introduite par la scène d'avant où les derniers mots sont South by Southwest.
Bon, donc à découvrir chez Wildside en Blu-ray, une très très belle édition aux alentours de 30€. Voilà, c'est un cadeau à se faire et c'est déjà sorti. Arnaud, est-ce que tu nous parlerais du Gang Anderson qui lui aussi vient de sortir en Blu-ray chez Sidonis?
Et qui, chez Sidonis, et qui lui aussi fait un grand jalon du polar américain des années 70.
1971.
Tout à fait. Et qui est signé donc Sidney Lumet, avec en tête d'affiche Sean Connery.
Eh ouais.
Dans une de ses prestations les plus badass qui soient.
Et Christopher Walken,
tout jeune, introducing, hein, parce que c'était son premier rôle. Voilà, il est, on voit déjà son style de jeu qui est déjà là, quoi. C'est assez étonnant.
Donc, effectivement, je me souviens gamin d'un sourire qui balance à un moment donné par-dessus son épaule, qui était genre Christopher Walken résumé en une fraction de seconde.
Ouais,
quoi.
Ouais. Non, c'est vrai que c'est étonnant quand tu découvres le film. Et donc voilà, alors qu'est-ce que c'est que le gang Anderson. Le gang Anderson, The Anderson Tapes. Je préfère d'ailleurs le titre original parce qu'il est largement plus représentatif de ce qu'est le film.
Oui, appelé le dossier après. Anderson sur Wikipédia, ce qui est
étonnant. C'est le gang Anderson.
C'est,
en France.
En effet.
Ouais. Et donc alors, en fait, ça raconte, pour résumer rapidement, ça raconte l'histoire d'un gangster, Duke Anderson, hein, qui est joué par Sean Connery, qui sort de prison. Qui va dans un hôtel particulier rejoindre sa maîtresse, qui est dans une sorte d'hôtel particulier, résidence avec pas mal de
locataires. Hôtel de luxe, quoi.
Voilà. Et donc, peu à peu, il va échafauder le plan de cambrioler cette résidence de luxe en entier, tous les appartements, parce qu'il sait qu'il y a des tableaux de maître, des bijoux en pagaille, du fric, tout ça. Et alors il va aller demander l'aide de la mafia pour financer ce gros casse, parce que c'est quand même un gros casse, hein. Ils vont devoir, y a un côté un peu mission impossible quand ils arrivent avec leur camion de déménageur, tout ça, avec son gang, là. Il monte un gang, il met sur pied un gang avec des potes à lui, des anciens repris de justice qu'il a connus en tôle, notamment, dont Christopher Walken. Et donc, ils vont monter ce casse dans cet immeuble de luxe, quoi. Le truc, c'est que ça, c'est le pitch du film, mais c'est que dès le départ du film, tous les personnages sont espionnés, enregistrés. Il y a des caméras, il y a des bandes, ils sont sur écoute. C'est omniprésent dans le film, ça court à travers tout le film. Et donc, ces enregistrements ne sont pas là pour faire joli, évidemment. Ils vont amener à quelque chose. Et alors, je sais pas, peut-être on n'est pas obligé de parler du final, quoi, parce que le film n'est pas forcément super connu. Mais en gros, ce sont il y a différents services, mais il y a le FBI qui enquête sur la mafia, il y a la brigade des stupes qui enquête sur des trafics de drogue, mais tout ça c'est des affaires séparées. Et en fait, Anderson, qui fréquente la mafia, passe au milieu de toutes ces affaires, rencontre des mafieux, discute avec eux, et lui à chaque fois il se retrouve dans les enregistrements. Et ça va avoir évidemment un effet sur le final, quoi.
Eh ben, on se doute. Voilà, voilà.
Alors, c'est étonnant de revoir le film maintenant, en fait, quoi. Parce que.
Ils n'ont pas de téléphone portable.
Non, ils n'ont pas de téléphone portable, mais c'est étonnant de revoir à notre époque un film. Le film est assez enjoué, hein, dans son ton. Il y a des dialogues assez savoureux. Sean Connery est assez jouissif dans son personnage, tout ça. Mais il y a cette invasion littéralement de la surveillance, quoi, dans le film, est très surprenante, non seulement à notre époque, comme je disais, mais en plus à l'époque du film. Parce que le film a précédé de, je crois, un an à peu près, le scandale du Watergate, quoi. Parce que c'est dommage, on peut pas parler de la fin, mais en gros, la fin se termine sur un scandale, enfin un potentiel scandale qui va remettre tout en cause, quoi. Et c'est d'autant plus frappant qu'il y a plusieurs scènes à un moment, au moins à deux trois reprises, on est dans des bureaux du FBI, des trucs comme ça. Il y a le portrait de Nixon au mur, quoi, qui est dans le cadre, quoi. Et quand on sait que voilà, oui, un an ou deux ans après, il allait avoir le scandale du Watergate, c'est assez prophétique, quoi. Prophétique aussi de notre époque, dans l'invasion de la surveillance, tout ça, parce que quand je dis que c'est dans tout le film, c'est vraiment dans tout le film. Il se passe pas un moment quasiment sans que Sidney Lumet il panote vers une caméra qui est au mur, vers un fil qui descend sous la moquette et qui est relié à la cave. On passe à travers le sol. De toute façon,
il avait une obsession de la société bureaucratique. Qui sont des thèmes que tu retrouves déjà dans Network, dans Le Prince de la Ville aussi, hein, qui démarre effectivement dès cette époque-là. Moi, à l'époque où j'ai découvert le film, j'étais gamin, m'avait vraiment...
Formidable musique de Quincy Jones.
Bah ouais, c'est ça, je la mettais en bruit de fond, parce que Quincy Jones, c'est comme Lalo Schifrin, c'est une des grandes figures de la musique des années 60-70, et là, encore une fois, on a un score, on va en écouter 2-3 secondes, c'est assez formidable, quoi.
C'est le thème du générique et qu'on retrouve à une ou deux reprises dans le film, mais qui fait plus, je trouve, Europe années 70. Il y a un côté un peu morriconien, ouais. Côte d'Azur, des trucs comme ça, et qui est moins représentatif de l'ensemble du score, qui est beaucoup plus expérimental que ça, quoi.
Moi, c'était la première fois que je voyais un film à la narration qu'on pourrait dire non linéaire, en fait, puisqu'il y a régulièrement dans le film des interviews, mais des entretiens avec des gens qui ont vécu un événement que tu n'as pas encore vécu et qui est censé te donner des indications sur ce qui va se passer à la fin. C'est-à-dire que tu as une certaine attente du final du film qui t'est amené par des séquences pressantes que tu as eues éparpillées dans le film. Ça, plus, comme le disait Arnaud, tous ces apartés sur les trucs de surveillance qu'il y a dans le film font qu'en termes de montage, c'est un vrai puzzle, plutôt expérimental, hein, je pense qu'on peut le dire. En tout cas, pour le gamin que j'étais, qui était très déstabilisant, c'était la première fois que je voyais un film, entre guillemets, aussi compliqué dans sa structure.
Clairement,
en fait,
alors,
quoi.
Tout en restant contiennement ludique, le casque, les personnages secondaires, Martin Balsam...
J'étais gamin.
Martin Balsam qui joue un membre du gang qui est un anti Riker, mais une folle tata. Complète, quoi. Alors, et qui est géniale, hein, dans le film, quoi.
En version française, je vous dis, c'était la cage folle puissance 1000, ouais, ce personnage. Ouais.
Ouais. C'était la voix de, en VF, c'était la fameuse voix de Sean Connery, là, Jean-Claude Michel, qui avait une voix tellement formidable, qui fait Clint Eastwood aussi. Donc,
vas-y, et du coup, Stéphane. Qui faisait Martine Balsam dans la VF?
Jacques Thébault.
Eh ben, il aurait dû faire Michel Serrault dans la cage folle.
C'est aussi un des films, parce que tu parlais de Tarantino tout à l'heure, mais c'est aussi un des films préférés de Tarantino, puisqu'il le cite ouvertement dans Reservoir Dogs en reprenant une idée du film, quoi, qui est les noms des personnages.
Mais explicitement.
C'est dans celui-là, je dis pas de conneries, non
de...
Qu'ils ont des noms de personnages.
Mr. Pink, machin.
Ouais.
Non, c'est dans les Pirates du Métro, ça.
Non.
Ah si.
Alors il y a une autre idée. Attends, parce que moi j'ai pas revu le Grand Anderson depuis très longtemps, mais il y avait une autre idée qui est reprise.
Mais c'est fort possible, mais c'est pas les noms de couleurs sur les personnages. Ça vient des Pirates du Métro. Okay. Ouais.
Oui, c'est pour toi. Sinon c'est du Tarantino porn évidemment, mais aussi je pense pour le coup pas seulement pour le fétichisme de l'époque, mais aussi pour le coup pour la narration éclatée entre guillemets, enfin non linéaire sur laquelle il a fait son nom, quoi. Dans la mesure où Reservoir Dogs te ramène aussi, alors c'est à l'inverse, tu ne découvres ce qui s'est passé qu'à travers les multiples flashbacks du film, mais là c'est en fait c'est les flash forward que le film te présente.
Ouais. Mais c'est vrai que le truc en plus c'est dommage qu'on puisse pas parler de la fin, quoi, mais en gros.
Mais non.
Ce qui est frappant c'est que je disais le film reste assez ludique en même temps complexe, tout ça, donc il se passe énormément de trucs, c'est un film assez dense, quoi. Et il se termine sur une impression de désastre, d'échec, de vide, quoi. C'est très nihiliste la fin, quoi. Vraiment, quoi. Faut le voir, quoi. Parce que quand on a toute cette machinerie en branle pendant tout le film et qui se termine comme ça, on est là à la fin, on reste un peu con, quoi, face à la fin du film. Quoi.
Je pense qu'il faut vraiment regarder le plus possible de films marquants de l'année 1971, parce qu'il s'est passé un truc cette année-là. Ce que tu dis justement, ce sentiment d'échec. C'est l'année d'Orange Mécanique, c'est l'année des Chiens de Paille, c'est l'année de. J'ai l'impression que l'idée de ce qui allait mener au mouvement punk est vraiment née en 1971 au cinéma.
Là encore, je suis désolé, on peut pas parler de la fin, mais c'est un film anti-système totalement. Cette fin, c'est ça, quoi.
Et l'idée de nos futurs, d'autant plus que, encore une fois, c'est fascinant que ce film passe son temps à te parler de ce qui va arriver et dont tu attends une version qui ne sera pas celle à laquelle tu vas avoir droit d'une certaine façon. Ça le ramène. Bon, bref, un jour, quelqu'un d'entre nous écrira un livre sur l'année 1971 au cinéma.
Point limite zéro.
Tout à fait.
L'inspecteur Harry, évidemment, on en parlait tout à l'heure. Même au cinéma français, il y a eu des trucs pas mal.
Pas seulement pas mal, c'est des films qui annonçaient.
Johnny Got a Gun.
Des films qui annonçaient la fin des. French Connection. La fin des espérances, quoi. Des espérances révolutionnaires de la fin des 60s, qui étaient toutes tombées à l'eau. Quoi.
Oui, parce qu'en plus, c'est quelqu'un, Duke Anderson, le personnage de Secondary, c'est un personnage en décalage, hein, qui sort de Toll, qui vient de passer 10 ans en Toll, qui sort avec des bras cassés, il va les reprendre dans son gang, mais Walken, il est un peu inexpérimenté. Il y a le vieux, là, ce personnage très touchant je me rappelle plus le nom du comédien, mais un personnage de vieux comme ça, qui un peu comme le Brooks des Évadés, qui est totalement, et lui il a passé 40 ans en tôle, il mate les nanas au supermarché en mini-jupe, puis il dit mais qu'est-ce qui se passe, quoi, et tout, et donc il monte ce gang de bras cassés là, Sean Connery, et il y a ce côté justement aussi le gars il sort de tôle, il est plus du tout dans le mood, quoi, et quand il voit tout ce qui se passe et qu'il voit justement toutes ces caméras partout, c'est...
Bon, en tout cas Master Haute Définition, une belle édition remasterisée, donc du Gant Anderson. Toujours un plaisir de revoir Sean Connery à ses plus belles heures.
Et puis Sidney Lumet, quoi.
Sidney Lumet, tout à fait. Bon, oui.
Non, mais c'est parce qu'ils vont se retrouver 2 ans plus tard sur The Offense, qui est un autre.
Qui est un des plus grands rôles de Connery.
Mais on en parlera.
On spécifie quand même.
Mal, oui, alors allons-y.
Non, pour le Blu-ray. La copie est particulièrement belle.
Bah oui, c'est ce que je disais, elle est remasterisée.
Voilà, et il y a quelques bonus, comme d'habitude, avec Sidonis. Comme d'habitude, le duo Bertrand Tavernier et Patrick Brion. Moi, ma préférence va largement à Patrick Brion, qui est plus concis, mais souvent proche de la vérité, quoi. Et Tavernier, c'est très intéressant aussi, mais il bavarde beaucoup, des fois il dit des inexactitudes.
Pas comme toi, quoi.
Non, c'est ça.
Et également François Guérif, qui est aussi intéressant, le directeur des éditions Rivage. Voilà.
Tout à fait. Bon, très bien. Écoutez, merci beaucoup pour ces recommandations pour l'été.
On arrive au bout, et nous sommes au bout d'ailleurs, nous sommes au bout de la corde.
Au bout du bout.
Au bout du bout, on va laisser Arnaud repartir dans sa campagne.
Je reviens pas la semaine prochaine ?
On verra. On verra peut-être que
non,
tu
je vais pas revenir.
Bon, tu vas rester
on
au soleil.
Verra, c'est nous qui décidons.
Okay. J'ai des trucs à faire à Nice.
On va dire bonsoir à Stéphane qui a l'air bien fatigué là.
Il fait bien chaud.
Il fait bien chaud, c'est l'été.
C'est surtout ça.
Et Rafik, lui, il est frais comme une rose, mais c'est normal.
Frais comme un petit gardon
monsieur,
dans
monsieur
le tour.
Je suis là, je vais me faire une petite fluff là.
C'est une bonne idée, je vais aller en faire une avec toi. Je ne sais plus quoi raconter, je vous embrasse tous, je vous souhaite de bons visionnages, de bons films. Allez dans les salles de cinéma.
Et bonnes vacances, David.
Et merci. Et je vous embrasse.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.